française, un jeune qui naît dans un quartier pauvre, dans une famille pauvre, a la quasi-certitude de devenir un adulte pauvre, sauf si notre collectivité se mobilise. Il y a tout juste un an, nous avions réuni au CIC pour vous demander de vous engager sur cette belle thématique. Et nous sommes heureux de constater que nous avons réussi. Nous avons réussi parce que Nantes est une belle ville, Nantes est une ville engagée. Et nous avons réussi parce que nous avons réussi à vous convaincre qu'il fallait changer de méthode, il fallait reprendre un professionnalisme et surtout s'attaquer avec méthode au niveau local à cette problématique qui ne pourra être résolue que si tous s'engagent. L'actualité de la crise sanitaire est venue nous conforter dans notre démarche, puisque comme vous le savez, dans cette crise sanitaire et dans la crise économique annoncée, ce sont avant tout les jeunes vulnérables, qui seront les premières victimes. Donc nous avons toute raison de continuer notre engagement. Rappelons rapidement quelle était l'ambition originale du projet. La DAT, la dotation d'action territoriale, c'est une alliance territoriale de tous les acteurs concernés par ce problème de la jeunesse, que sont les acteurs publics, les entreprises et les associations qui s'occupent de la jeunesse. Et afin de garantir l'impact de ce projet, nous avons établi une méthode qui, comme vous le savez, démarre tout d'abord par un diagnostic, par l'identification des besoins. Deuxièmement, qui analyse les solutions qui sont proposées à la jeunesse et qui sélectionne les meilleurs projets, à partir de certains critères clés comme est-ce qu'il y a une pertinence du projet proposé, est-ce qu'on travaille bien sur la prévention, est-ce que l'association qui porte le projet a l'ambition de faire croître son impact, et troisièmement, est-ce que l'organisation à cette, je dirais, l'ADN et la culture de l'impact, c'est est-ce qu'elle sera capable de mesurer avec nous le progrès fait, car c'est une des conditions essentielles pour que les entreprises continuent à s'engager sur le long terme. Cette dynamique de la DAT, cette méthode, a été reprise par le gouvernement dans son plan de lutte et de prévention contre la pauvreté de la jeunesse. Et cette expérience que nous menons ici a vocation à se propager, à s'essayer sur le territoire national, puisque dès cette année, dès la fin de l'année, nous démarrons un programme pour toucher 50 villes, dont Marseille, Bordeaux et 50 et 48 autres territoires, pour toucher 100 000 jeunes dans les prochains mois, les prochaines années. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui à Nantes? 22 entreprises se sont engagées sur le projet à date. Elles ont déjà versé 275 000 euros, ce qui correspond à 900 000 euros sur une période triannuelle. Donc nous sommes dans nos objectifs. Ces projets vont bénéficier à 7300 jeunes. Et ils sont au nombre de 9, dont 2 qui sont affectés au décrochage scolaire, commençant dès la petite enfance avec Regard à Bellevue. 3 projets sont destinés à faire connaître le monde du travail auprès de la jeunesse. Et comme vous savez, pour nous, c'est absolument clé, parce que les enfants qui sont en difficulté scolaire doivent comprendre qu'il y a une vie après l'école, et que cette vie les appelle, et que l'entreprise est un lieu d'aventure humaine et pas, comme beaucoup le pensent, un lieu d'exploitation. Et enfin, favoriser l'insertion professionnelle pour 4 projets. Voilà, merci encore de vous être engagé. Monsieur le premier adjoint, je pense que la parole est à vous.
Gracias. messieurs, merci d'être présents ici aujourd'hui. Merci d'avoir eu l'idée de cette fondation. Merci d'avoir tous participé à cette aventure. À Nantes, on pense que parmi les choses qui font que l'état naturel des choses change, c'est quand les gens se rencontrent alors qu'ils n'étaient pas destinés à se rencontrer. On pense que quand on est coincé dans un cercle vicieux, et la pauvreté en est un, quand on est coincé dans un cercle vicieux, pour qu'on puisse aller de l'avant et qu'on puisse en sortir, pour qu'on puisse casser ce cercle vicieux, parmi les choses qui peuvent aider, parmi les leviers sur lesquels on peut agir, il y a ces rencontres qui peuvent nous arriver. Alors parfois c'est juste une rencontre avec un personnage dans un roman, parfois c'est un personnage dans une série télé, parfois c'est une rencontre avec une vraie personne qui vient d'un milieu différent, qui vient d'un cadre différent, qui vient d'un contexte différent, et qui permet d'ouvrir les horizons comme ça, de se donner des idées, de se dire que ce qu'on m'a toujours dit que ça n'était pas pour moi, ben finalement si c'est possible parce qu'un tel l'a fait et qu'il n'y a pas beaucoup de différence finalement entre moi et lui, contrairement à ce que je pensais. Donc je pense que ce que vous faites, du fait même de cet ensemble de logos que vous avez présenté tout à l'heure, montre bien que vous êtes dans une logique de rencontre, dans une logique de gens qui ne se seraient probablement pas rencontrés pour travailler ensemble sur le sujet, que ce soit les entreprises elles-mêmes ensemble, que ce soit les entreprises avec les associations qui sont partie prenante de cette aventure, puis évidemment avec la collectivité, et surtout avec les jeunes qui sont concernés, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, vous intervenez sur la question de la petite enfance, sur la question de la jeunesse, notamment le soutien scolaire, mais aussi l'accès au premier emploi, donc là où tout se construit. Évidemment, plus tard, on peut toujours casser le cercle vicieux que j'évoquais tout à l'heure, mais si on s'y prend un peu en amont, on a plus de chances de le casser. Et donc ce que vous faites, et je pense, enfin, j'ai vu quelques logos d'associations qui contribuent à cette capacité de rencontrer, de faire se rencontrer des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement. Et en fait, tout ça fait qu'on peut espérer casser le cercle vicieux de la pauvreté. Alors évidemment, on n'y arrivera pas nécessairement de manière générale, ça demande probablement encore beaucoup de travail. Ceci dit, chaque mètre gagné, chaque personne gagnée, c'est toujours ça de prix. Et je pense que ce que vous faites y contribue, ce que les associations que vous aidez font y contribuent. Et à Nantes, on est ravis de pouvoir travailler avec vous, ravis de pouvoir vous accueillir. Et donc, merci beaucoup pour les efforts que vous faites. Et les efforts, évidemment, ce sont des efforts en euros, mais c'est aussi des efforts en temps que vous passez, vous et peut-être vos collaborateurs, à travailler avec ces associations, avec Brio, avec Proximité, avec un certain nombre d'autres. Donc, bravo pour ce que vous faites et merci pour l'effort que vous faites.
Bonjour à tous, c'est évidemment un très grand plaisir également pour moi en tant que vice-présidente de Nantes Métropole en charge de l'emploi et de la responsabilité sociétale des entreprises d'être parmi vous, de revoir un certain nombre de vieux amis, en fait, vieilles amies qu'on connaît depuis longtemps et n'a pas eu l'occasion souvent ces derniers mois de se voir en face à face. Donc je vous remercie vraiment d'être là, beaucoup d'acteurs de la plateforme RSE de la métropole nantaise qui sont là et évidemment, c'est quelque chose qui fait tout à fait sens. Je me rappelle, Monsieur le Président, d'avoir rencontré vos équipes il y a à peu près un an pour échanger justement sur votre initiative et je vous avais à l'époque dit que vous avez choisi le bon territoire à Nantes justement. Il y a cette capacité des acteurs de travailler ensemble, comme l'a dit Bassam Massel. Mais je vous ai aussi dit que ce qui était important pour nous, c'est que ce soit vraiment quelque chose qui soit ancré sur notre territoire, parce que c'est sur le territoire que les innovations se réalisent, vous l'avez très bien dit, et qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives ici, et l'idée c'était vraiment de trouver une complémentarité, et de ne pas recréer quelque chose en fait qui n'existait pas, et je peux vous féliciter, vos équipes en fait, et toutes les entreprises et associations, vous avez bien relevé ce défi, en justement en fait construisant sur ce qui existait déjà, les différents acteurs, et ça a finalement, je pense, contribué au succès rapide de vos initiatives. C'est pas forcément évident dans le contexte actuel effectivement d'avoir pu mener un tel nombre d'actions aussi rapidement, d'avoir collecté à la fois des fonds et créé des liens en fait très directs. Donc c'est la preuve effectivement qu'on peut tout à fait travailler ensemble à toutes les échelles, au niveau national, au niveau local et surtout effectivement avec différents partenaires. Donc c'est quelque chose, je pense, qui est à souligner, à soutenir évidemment. Donc j'ai vu que vous avez des grands défis aussi pour l'avenir. Et c'est important, effectivement, que Dans ce contexte particulier, on pense aux jeunes effectivement, en situation difficile. C'est une préoccupation qu'on a évidemment au niveau de la métropole, au niveau de la mairie, et tous les acteurs de la politique d'emploi en fait, se mobilisent. J'en profite effectivement, pour vous dire qu'on est assez alerté, assez préoccupé justement sur la situation des jeunes qui sont assez éloignés de l'emploi dans le contexte actuel. C'était déjà une problématique évidemment qu'on rencontrait avant la crise, mais on peut prévoir effectivement que malheureusement, quand il y aura peut-être un taux de chômage qui va croître, y compris ici sur le territoire, que ceux qui sont éloignés se trouvent encore plus en concurrence effectivement avec d'autres, et donc il faut qu'on renforce au contraire nos efforts pour les accompagner. Et donc je compte sur vous, sur cette initiative en fait, à agir concrètement là-dessus. Et si vous me permettez juste une petite parenthèse par rapport à ça, vous avez vu certainement qu'on a lancé une plateforme des stages, dès les stages de troisième en fait, pour permettre à des collégiens de toute la métropole effectivement d'avoir des chances en fait d'identifier des entreprises hors de la réseau personnel qui parfois est assez restreint. Et ça a très bien fonctionné ces deux dernières années avec une forte mobilisation. On a pu effectivement offrir des stages à beaucoup de jeunes des collèges effectivement qui sont en difficulté. Et cette année, et ça approche, on a évidemment beaucoup plus de difficultés. Donc si vous avez quand même, malgré le contexte effectivement très difficile, la possibilité de penser à prendre un ou deux stagiaires, ça sera vraiment aussi une autre action concrète au-delà même de la dimension financière. Mais voilà, encore une fois, un grand bravo, merci, et j'aurai évidemment le plaisir de continuer à échanger avec vous tout à l'heure autour de la table. Merci beaucoup.
D'ailleurs, je suis la directrice générale de la Fondation Ombrelle Poverty et je vais avoir le plaisir d'animer la table ronde qui nous attend maintenant. Je vais appeler donc à me rejoindre sur cette table ronde Aïcha Tarek, Hélène, Sandrine Pelletier, Lionel Fournier et Gilles Delarose. Sous vos applaudissements, si vous voulez bien. Aujourd'hui devant vous, les acteurs qui incarnent cette dotation d'action territoriale, cette alliance territoriale très forte que nous avons voulu bâtir ici à Nantes, où entreprises, collectivités locales et associations se réunissent autour d'un même combat, celui d'offrir un avenir meilleur à de nombreux jeunes défavorisés. Vous l'avez vu, ça ne vous a probablement pas échappé, les statistiques de l'INSEE sont tombées la semaine dernière et malheureusement, elles sont extrêmement mauvaises. Le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté a encore augmenté en France entre 2017 et 2018. Et malheureusement, on imagine que ces statistiques vont continuer en fait à croître dans le contexte actuel qui a plongé dans une précarité encore plus forte les personnes déjà vulnérables. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il est important en fait de les accompagner. Peut-être également un rappel en chiffres, à Nantes, vous le savez, 15 quartiers prioritaires de la ville. Ces 15 quartiers prioritaires réunissent environ 50 000 personnes. Sur ces 50 000 personnes, on compte environ 20 000 jeunes. Sur ces 20 000 jeunes, plus 50% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc 50% de jeunes qui ont souvent un avenir extrêmement étroit, à qui on ferme des portes en fait lorsqu'ils ont un projet professionnel, un projet personnel, un projet culturel, et des jeunes en fait qui ont souvent malheureusement en fait une vision extrêmement négative de leur avenir. Et donc notre engagement et votre engagement à leur côté, c'est finalement de leur offrir un avenir meilleur, de les accompagner, de leur permettre d'avoir des rêves, des chances de réussite en fait comme tout le monde, et de permettre finalement à ces jeunes de grandir et de viser un horizon professionnel aussi brillant pour les uns comme pour les autres, quel que soit le lieu où ils ont grandi. Et bien ce combat, vous l'incarnez, mesdames et messieurs, puisque c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on peut monter ces projets ambitieux au profit de ces jeunes défavorisés. Et je vais peut-être commencer à donner la parole en fait à Aïcha Tarek. Aïcha, vous êtes présidente de l'association Regarde, qui est implantée dans le quartier de Bellevue. Une association qu'on a vite repérée, qu'on a beaucoup aimé d'abord, parce que vous êtes implantée au cœur du quartier. Et surtout, en fait, vous croyez, vous incarnez dans vos modes d'action que l'avenir d'un jeune se construit très tôt et qu'il faut l'accompagner très très tôt pour faire en sorte qu'il puisse éviter le décrochage scolaire et surtout qu'il puisse effectivement avoir un véritable avenir professionnel. Je sais que vous avez été aussi particulièrement impacté par la crise sanitaire qu'on a tous connue. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Alors, au niveau de l'association, quand il y a eu la crise sanitaire qui s'est présentée, on a continué à accompagner les enfants à distance. Ça marche ?
Ça marche pas.
Bon, d'accord. Donc, comme je disais, on a continué à accompagner vraiment les enfants à distance. Donc, faire le lien aussi avec les écoles et avec les parents qui n'avaient pas justement tout le matériel pour pouvoir faire toutes les impressions et tout ça, donc vraiment à l'association on était présent pour accompagner ces enfants et ces jeunes et faire le lien avec les parents. Après, concernant la dotation d'action territoriale, donc au niveau du... c'est un nouveau projet donc on a décidé de mener qui devait commencer seulement au mois de septembre et donc en réfléchissant après justement avoir repris au mois de mai. On a appelé Juliette de Break for Version, on lui a dit bah, écoute, ça serait peut-être bien qu'on mette en place le projet dès mois de juillet, les enfants en ont besoin. Et donc ce projet, c'est vraiment de mettre en place un accompagnement scolaire de qualité sur le quartier. Alors pourquoi un accompagnement scolaire de qualité? C'est d'avoir des intervenants de qualité. Donc quand je dis des intervenants de qualité, c'est des professeurs qui viennent intervenir. Donc au mois de juillet, on a eu un professeur qui est venu tous les matins accompagner les enfants de 6-10 ans donc, sur les problématiques qu'ils rencontraient, mais également en lien avec les enseignants qui nous avaient donné des petits documents en disant ben voilà, il faut accompagner cet enfant plus en lecture, plus en écriture, plus en orthographe, plus sur des sons ou en maths. Donc c'est ce que le professeur a fait régulièrement. C'était vraiment un défi pour nous parce que ce projet de mettre de l'accompagnement scolaire pendant les vacances, voilà, on sait bien que pendant les vacances, les enfants s'amusent. Et donc, on avait un peu peur que ce projet n'aboutisse pas, en tout cas ne prenne pas tout de suite. Mais on a été vraiment étonnés parce que les enfants étaient vraiment mobilisés. Les parents nous ont accompagnés sur ce projet. Et en même temps, les enfants, quand on leur a marqué, on a fait un cahier en fin juillet, fin des vacances. Et on leur a demandé pour certains qu'est-ce qu'ils ont aimé, justement, au centre de loisirs et avec cet accompagnement scolaire. Et certains ont marqué, oh, moi j'ai adoré les cours avec Laure. Donc Laure, c'est l'institutrice qui venait faire les cours tous les matins au centre de loisirs. Le projet, bien sûr, va perdurer. Il perdure sur toute cette année, donc grâce à cette dotation d'action territoriale. Donc voilà, il perdure. Donc comment il perdure? Donc on a commencé déjà la semaine dernière en prenant aussi une formatrice qui est venue former toute l'équipe sur l'accompagnement scolaire et la posture de l'animateur en accompagnement scolaire. Donc je pense que ça c'est important aussi de comment on donne les moyens aussi à ceux qui font de l'accompagnement scolaire de bien accompagner les enfants. Il y a eu aussi une formation qui a été faite la semaine dernière aussi sur tout ce qui est communication bienveillante, donc sur la posture aussi de l'animateur vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis des parents, comment on accompagne l'enfant de ce côté-là. Et puis, donc, l'accompagnement scolaire a commencé. Actuellement, on a 25 enfants d'inscrits, donc tous les soirs. Ça va perdurer ensuite sur chaque petite vacance, les deux semaines de chaque petite vacance, sur toute l'année, avec, comme je disais, donc de l'accompagnement de qualité, puisqu'il y aura 7 profs qui vont revenir à chaque vacance faire de l'accompagnement scolaire, en lien avec l'école, en lien avec le parent. Il y aura aussi également tout ce qui est le bien-être de l'enfant, donc avec... des ateliers autour du yoga, de la sophro, du tai chi, etc. Il y aura aussi du théâtre. Voilà, c'est comment on englobe toutes ces actions pour amener le bien-être de l'enfant à ce qu'il se sente bien pour pouvoir bien étudier à l'école aussi. Après, au mois de juillet, ça sera plus destiné aux collégiens. sur une journée complète avec des journées de cohésion et pareil avec des professeurs des collèges et avec des cours, j'ai oublié aussi pour les primaires, il y a des cours de langue sur la découverte aussi culturelle. Donc cours de langue, on a choisi les langues anglais, allemand, espagnol et chinois. Donc voilà un petit peu le projet. En tout cas, je tenais à vous remercier, déjà un, de m'avoir invité, et deuxièmement, de soutenir ce projet. Merci beaucoup.
Merci infiniment, Aïcha, pour ce joli témoignage. Et je rappelle, le décrochage scolaire, ça commence très jeune. On constate que des enfants défavorisés abordent l'âge de 3 ans, en fait, avec 50% de mots de vocabulaire ou moins que des enfants qui ont grandi dans un environnement favorisé. 500 mots versus 1000 mots. Et ces enfants, en fait, ont souvent un avenir qui est malheureusement assez sombre parce que ce retard, en fait, à 3 ans est souvent compliqué à rattraper en termes de développement. Donc, merci pour l'accompagnement que vous leur offrez. Et c'est vrai que je pense que vous avez eu la chance et surtout, à mon avis, la très très bonne idée d'appeler ce projet estival les vacances dynamisantes et pas les vacances apprenantes, parce que je ne suis pas sûre que l'éducation nationale ait autant de succès en fait avec un pareil.
Si je peux rajouter quelque chose, après souvent on parle dans les quartiers de parents démissionnaires. Alors les parents ne sont pas démissionnaires, c'est que les parents n'ont pas les moyens. Donc eux, leur priorité, c'est comment payer leurs factures et comment donner à manger à leurs enfants jusqu'à la fin du mois, comment tenir jusqu'à la fin du mois. Donc tout ce qui est à côté, pour eux, ne sont pas des priorités. C'est comment nous, acteurs de terrain, on va voir les parents et on leur dit, ben voilà, là il y a un accompagnement. Cet accompagnement, il peut être gratuit, il peut être accompagné aussi, que ce soit par le département, par la ville ou autre. Et donc c'est comment tous ensemble, on travaille main dans la main pour la réussite scolaire des enfants.
Merci beaucoup, Aïcha. Je vais donner la parole à Hélène Kouzoubachian maintenant. Hélène, merci infiniment d'être présente à nos côtés également. Donc, vous dirigez le programme Brio, un programme en fait, qu'on a également très rapidement repéré, puisqu'il porte en fait en son sein un principe fondamental que l'on soutient beaucoup, qui est celui du tutorat et de l'accompagnement des jeunes qui grandissent aujourd'hui dans ces quartiers défavorisés et qui ont souvent pas les mêmes perspectives que des enfants qui ont grandi dans un autre environnement, qui ne visent pas les mêmes écoles, alors qu'ils peuvent avoir exactement le même potentiel. Et donc vous les accompagnez, alors dans un contexte aussi qui était compliqué avec l'année scolaire précédente et qui s'annonce encore compliqué cette année. Racontez-nous cela.
Alors oui, effectivement, pendant la période du confinement, ça a été compliqué puisque nous, on accompagne des lycéens par le biais de tuteurs de grandes écoles et ils se regroupent, ils se rencontrent 2 fois par mois lors d'ateliers d'ouverture culturelle. Et effectivement, bah, ça, c'était impossible de se réunir avec le confinement. Et ça nous a amené à revoir et à repenser intégralement le programme, à réfléchir à la manière dont on pouvait quand même amener la culture, même enfermée chez soi. Donc on a mis en place un cycle de conférences à distance, hebdomadaires, avec des intervenants du monde professionnel et qui avaient des parcours atypiques et qui leur permettaient de découvrir que ce soit un romancier, un auteur de polar qui était originaire de Nantes et qui vit aujourd'hui à Singapour, un écrivain de BD, des journalistes, des médecins qui leur ont fait des conférences et qui ont pu répondre à leurs questions concrètes qu'ils pouvaient se poser pendant la période de confinement, à des joueurs de musique, des danseurs, enfin, qu'on a vraiment fait intervenir des personnalités très très larges et pour faire venir voilà, la culture à eux pendant cette période-là. On a fait partir également des newsletters tous les 15 jours. L'idée, c'était aussi de casser l'isolement qu'ils pouvaient avoir pendant cette période. Et en fait, on a retravaillé aussi sur 2 thématiques qui ne sont pas au cœur du dispositif Brio au départ, mais qui sont apparues vraiment flagrantes en fait avec le confinement. C'était d'une part la fracture numérique, parce qu'on s'est rendu compte très rapidement que les jeunes qu'on accompagnait, ils se retrouvaient dans des années assez cruciales. On les accompagnait de la première à la terminale, donc des années qui sont charnières, et ils se retrouvaient pour certains sans ordinateur à la maison, sans connexion. Donc ça a été vraiment la première action du confinement, c'est de travailler à la manière dont on pouvait équiper ces jeunes. Et j'ai du coup recensé au niveau des 14 lycées partenaires qu'on a sur la région, quels étaient les besoins des lycéens, donc au-delà des lycéens Brio qu'on accompagnait, pour répondre à cette problématique. Donc on a répondu à des appels à projets, notamment un qui était porté par Break Poverty, d'Emmaüs Connect, avec Connexion d'urgence. Donc on a pu bénéficier de 47 tablettes et équiper des lycéens donc de Nantes par ce biais. Des partenaires qu'on avait, tels que la BNP Paribas, nous ont également fourni 4 ordinateurs portables. Donc on a pu répondre à des besoins qui étaient vraiment prégnants et sur lesquels je pense qu'on a envie de continuer à travailler parce qu'il y a des solutions parfois temporaires qui ont été mises en place par des lycées avec des prêts d'ordinateur sur la période. Mais on a des lycéens qui se retrouvent voilà, cette année en terminale et qui du coup ont rendu ces ordinateurs et qui se retrouvent toujours en difficulté. Ensuite, le deuxième élément qu'on a beaucoup travaillé pendant le confinement et sur lequel d'habitude on ne travaille pas, parce que nous on est plutôt sur donner confiance, l'ouverture culturelle, mais on ne fait pas de soutien scolaire. Et pendant la période du confinement, on avait des lycéens qui étaient chez eux, isolés, et qui pouvaient se retrouver en décrochage scolaire, puisque dans leur environnement, les parents, même s'ils en avaient la volonté, ils n'avaient pas les capacités de pouvoir vraiment les aider à suivre les cours tout seuls à la maison. Donc on a des anciens étudiants des grandes écoles, des anciens tuteurs qui se sont mobilisés, qui étaient en stage, dont les stages s'arrêtaient parce qu'avec le confinement c'était plus possible pour eux et qui du coup avaient du temps disponible. Et ce sont, on a eu une trentaine qui se sont mobilisés bénévolement pour donner des cours de soutien sur l'ensemble des matières que pouvaient rencontrer nos lycéens, que ce soit en bac professionnel, technologique ou généraliste. Ils couvraient vraiment toutes les matières. Et ils accompagnaient chacun jusqu'à deux lycéens sur plusieurs matières. Et ça a énormément aidé en fait, les lycéens qu'on accompagnait. Et ça les a motivés, ça a recréé du lien sur certains qui parfois n'arrivaient plus à suivre à distance avec le lycée.
Merci beaucoup Hélène. C'est effectivement une belle preuve de flexibilité et d'adaptation dans un contexte très compliqué. Je le rappelle effectivement, la crise sanitaire a montré à quel point la fracture numérique était importante en France. Concrètement, pour des enfants défavorisés, le confinement, ça a signifié du jour au lendemain une rupture brutale avec l'école. Aucun moyen de se connecter avec l'école à distance, pas de connexion Internet et pas d'ordinateur à la maison. Ça représente un quart des familles modestes en France. 25% des familles défavorisées n'ont pas l'équipement nécessaire pour répondre aux besoins scolaires de leurs enfants. Donc la Fondation Repoverty s'est effectivement beaucoup mobilisée sur ce sujet puisqu'on a distribué plus de 16 000 ordinateurs en France pendant le confinement et on poursuit cette opération. Donc un appel également aux entreprises présentes ici, si vous avez des ordinateurs de parc informatique qui gisent dans vos caves et qui peuvent avoir une seconde vie auprès des jeunes défavorisés, on est preneur, on les reconditionne et on les distribue à des jeunes défavorisés. Et je suis sûre que les jeunes suivis par Brio, par d'autres associations seront ravis de les avoir. Donc on compte également sur votre soutien. Merci infiniment Hélène. Lionel. Merci infiniment de nous accueillir ici. Nous sommes absolument ravis d'être ici et je pense que c'est également un beau symbole parce que je pense que vous étiez un des premiers partenaires entreprises à vous mobiliser dans cette dotation d'action territoriale. On vous a vu, vous avez dit oui très très rapidement et avec un engagement très fort, vous portez depuis ce combat en fait qui est le nôtre. Qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre aussi rapidement le projet de dotation d'action territoriale ?
Je vais dire trois choses. D'abord, je pense que la question de l'attention à la jeunesse et au bout du bout, la question de l'inclusion dans l'emploi. On est bien d'accord. Hein. La lutte contre la pauvreté, c'est bien l'accès à l'emploi. Et je pense que l'accès à l'emploi, c'est un enjeu de santé. Voilà, je suis persuadé que le fait de ne pas pouvoir accéder à l'emploi auquel on pourrait prétendre, au vu de son énergie, de ses talents, est un facteur de dévalorisation, est un facteur de stress qui joue sur l'état de santé. D'ailleurs, on le voit bien, hein, globalement, l'état de santé des gens qui travaillent, à âge égal, évidemment, et l'espérance de vie est plus importante que ceux qui sont privés d'emploi. Donc je pense que c'est un enjeu de santé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Harmonie Mutuelle a cette attention-là, l'inclusion de la diversité de manière générale, mais l'inclusion, une attention particulière à la jeunesse. Deux exemples. Au moment où on a rencontré Denis, hein, qui, voilà, avec l'énorme projet de la DAT, on est en train de créer Harmonie Mutuelle, une fondation, la Fondation Harmonie Mutuelle, qui est dédiée au soutien des projets de la jeunesse. Et puis là, tout à l'heure, André parlait de stagiaires. Là, on a décidé de doubler le nombre d'alternants et d'apprentis que nous allons embaucher. Et là, c'est 300 là, qui sont en train d'être embauchés. On va réussir l'objectif. Il y a la deuxième raison qui m'a fait soutenir le projet, c'est que, voilà, d'abord, il y avait de la méthode, il y avait de la structure, mais il y avait l'idée qu'on allait s'appuyer sur ce qui se passait sur le territoire et sur les associations qui savent faire. C'est important de ne pas essayer de coller quelque chose et de rajouter. Et en plus, bon, de manière très prosaïque, hein, Harmonie Mutuelle est partenaire, soutien depuis le début. Il y a un ancien président historique d'Harmonie qui avait aidé à créer l'association Escalade Entreprise.
Il y a un programme auquel on était particulièrement attaché qui s'appelle le programme Jeunes Envie Motivation, qui allait probablement disparaître. Hein. L'idée, c'est vraiment d'accompagner sur la durée des jeunes décrocheurs. Alors, pas officiellement décrocheurs, parce qu'ils sont trop jeunes pour être connus légalement, mais des décrocheurs sur la durée, pour leur redonner envie, redonner confiance. Et ce programme allait disparaître. Et là, grâce à la DAT, c'est 36 jeunes qui vont être accompagnés cette année. Donc, c'est 36 occasions de sauver des vies, avec un impact énorme. Il y avait une culture aussi d'impact dans ce que c'est. Et puis, le dernier élément, c'est aussi la possibilité de travailler en collaboration. Nous, en tant que mutuelle, on aime bien. Et donc, avec BPGO, on est mutuellement clients, on va vous dire. Mais surtout, on partage plein de choses, des valeurs. On s'est dit, on va s'associer avec Maurice Bourrego, que je salue ici, pour soutenir les mêmes actions, que ce soit financièrement, voire même par le biais de bénévolat de compétences par nos collaborateurs. Donc, ça va être Travail Solidaire et GEM. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, effectivement. Une belle association entre Arnaud Mutuel et la Banque Populaire Grand Ouest. Merci infiniment, Maurice, d'être aujourd'hui avec nous également. Sandrine Pelletier, vous dirigez une grande entreprise, l'entreprise Applix, une industrie qui emploie plus de 1000 salariés, spécialisée en fait dans les auto-agrippants, dans un contexte actuellement compliqué, malheureusement, effectivement, vous travaillez beaucoup avec l'industrie aéronautique et l'industrie automobile, donc vous traversez des jours difficiles, mais ça ne vous a pas empêché en fait, de vous mobiliser sur ce projet auquel vous croyez beaucoup, et surtout, en fait, vous avez choisi de vous mobiliser aux côtés de vos salariés, en fait, que vous vouliez vraiment en fait, associer à cette initiative. Racontez-nous.
Oui, c'est vrai que nous, notre philosophie en termes de... On peut parler de philosophie en termes de mécénat, et d'essayer d'accompagner l'engagement de nos salariés. On aime effectivement que nos salariés prennent une responsabilité directe et donc on les accompagne. Donc chaque année on organise des campagnes de solidarité, on va dire, et on demande à nos salariés de se manifester, de venir vers nous en nous disant dans quelle association ils sont engagés et on leur apporte un soutien financier. Mais donc, on a à cœur d'avoir un mélange et de mécénat de compétences et de mécénat financier. Donc là, quand vous êtes venu nous parler des projets qui étaient en cours, c'est vrai que notre premier réflexe était de chercher dans ces projets quels seraient ceux qui pouvaient allier les deux types de mécénat. Donc, on a fait une première sélection des projets dans lesquels il y avait ces mécénats. Et puis, on souhaitait aussi s'inscrire dans les projets qui faisaient du lien entre l'entreprise et les jeunes, parce que ça nous paraît être notre responsabilité directe en tant qu'entreprise et notre rôle. Et on n'a pas de questions à se poser là-dessus. Donc, on a fait une première sélection. Et puis, on a organisé un grand vote dans l'entreprise. Et puis, les résultats du vote a donné effectivement gagnant Escalade Entreprise. Et donc, c'est le projet qu'on a choisi d'accompagner.
Merci infiniment. Donc un témoignage d'une belle industrie, d'une mutuelle, une entreprise de service. À votre tour, Gilles Delarose, vous êtes fondateur de Happy Babies, un réseau de crèches. Et vous êtes également membre du Centre des jeunes dirigeants, en fait. Vous êtes membre du CJD, je crois que Clément Loé, je l'ai vu tout à l'heure, est parmi nous. Il est là-bas, partenaire de la dotation d'action territoriale et donc on a beaucoup de membres du CJD qui nous ont soutenus. Merci infiniment d'être là. Vous témoignez aussi de l'engagement que des PME, des TPE peuvent avoir aux côtés d'un projet comme celui-ci, d'autant que la responsabilité sociale de votre entreprise était au cœur de votre projet initial.
Ah oui, c'est ça. Moi je suis un peu le petit poucet de l'État puisqu'on est 11 salariés. Mais c'est peut-être un des messages sympas du jour, c'est de se dire que quelle que soit la taille de mon entreprise ou de ma structure associative ou autre, je peux donner. Et d'ailleurs, je partageais avant le démarrage avec une copine du CJD, Ingrid, qui donne aussi à Rue Poverty. Je disais, je ne sais pas pourquoi je suis sur scène, parce que je ne pense pas être dans les plus méritants. Moi, j'ai donné 1 600 €. On donne 1 600 € sur 3 ans, 3 fois. Donc, j'ai cru comprendre que le don moyen, c'était 12 000 ou 13 000 €. Donc, on est vraiment un petit poucet. Et ce qui est sympa, c'est que normalement, si on additionne tous nos dons, ça peut faire une différence. Vous évoquez effectivement l'ADN créateur de la boîte. Donc moi, j'ai créé une petite entreprise, ça fait très grandiloquent en réseau. J'ai une crèche, voilà, pour l'instant, et on va en ouvrir 3 autres dans les 3 années qui viennent. Et en fait, déjà dès l'ADN de départ, moi mon rêve, parce que je suis un grand rêveur idéaliste, c'était que ces crèches changent à chaque fois la vie du quartier où elles s'implantaient. Alors, idéalement en bien. Donc que les enfants qu'on accueille s'épanouissent, que les parents ils soient mieux dans leur basket et qu'ils trouvent des clés pour être le parent le plus épanoui qu'ils puissent être avec leurs enfants, parce que c'est pas facile au quotidien. Que les professionnels soient contents de bosser dans la crèche. Et le dernier point, c'est là que ça fait le lien avec Black Poverty. Je voulais que l'arrivée de la crèche signifie quelque chose pour le quartier, même très modestement. Donc je m'étais dit, notamment, on donnera un petit peu d'argent à des associations qui œuvrent sur notre territoire. Et sur ce, arrive le programme Black Poverty. Donc l'année dernière, à l'amphithéâtre du CIC, très belle présentation, une sorte d'évidence, on découvre les chiffres chocs. Pierre-Yves, vous nous avez partagé, notamment au CIC, en disant, est-ce que vous vous rendez compte, taux de chômage dans les quartiers des politiques de la ville, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous vous rendez compte? Ok, donc moi je me suis dit très bien, ils ont sélectionné les programmes, donc on s'est réunis dans notre petite équipe, on n'a pas fait un vote à 250, on était 10 ou 11. J'ai soumis les projets qui avaient été présélectionnés par Black Poverty, et puis on a voté. On a plutôt présélectionné 4 programmes dédiés à la petite enfance, dont Regards. Et je suis ravi finalement, les systèmes au sein et Regards, pour moi c'était une cohérence parfaite, c'est-à-dire la crèche elle est à Bellevue, on est à quelques centaines de mètres, on ne s'est pas encore rencontré, enfin je vous ai vu sur ça. Donc, pour moi il y a juste une énorme cohérence, il n'y a pas grand chose à expliquer de plus. Il y a un point que j'aime beaucoup dans le projet Black Poverty, tu l'as dit Lionel, d'abord vous ne réinventez pas la roue, et ça pour moi c'est essentiel, s'appuyer sur des associations existantes, et juste venir démultiplier, parce que souvent il y a des assos qui font un super boulot, mais qui ne sont pas très doués en collecte des dons, et c'est compliqué à faire. Vous, vous réglez le problème, vous dites, nous on repère ceux qui font du bon boulot, on construit avec un plan calé dans le temps en disant, vous prenez un engagement d'action, on va démultiplier votre action, et nous on se charge de la collecte. Et un truc cool aussi, c'est que les frais de structure de Black Poverty ne sont pas prélevés sur vos dons. Si vous donnez 1000, c'est 1000 qui vont à l'association, puisque c'est de riches donateurs qui finance en fait les frais de fonctionnement de Black Poverty. Donc voilà, à la rigueur, juste moi, mon mot de la fin, c'était une petite déception partagée avec Inge. Je me dis, mince, on n'est que 22, il y a quand même de la marge pour qu'on puisse donner beaucoup plus, parce que le sujet majeur, je vous disais que je suis un grand rêveur, je suis partie de ceux qui rêvent de créer une société plus inclusive, plus collaborative. Je ne crois pas du tout que les pouvoirs publics, ils ont toutes les clés pour régler tout. Et je pense que là, c'est super, ce genre de projet qui fédère et du milieu associatif, du mutualiste, du privé et tout, pour moi, on est au bon endroit. Et c'est ça la société de demain que je rêve de co-construire.
Merci infiniment. Merci pour ce témoignage qui prouve qu'il n'y a pas de petits dons. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de mobiliser un maximum de partenaires. Et je vous rassure, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer, en fait, ce combat, on le porte, on l'incarne, et on va continuer à mobiliser. Mais en tout cas, merci pour votre soutien. Et puis, je suis sûre qu'autour de vous, on va encore regrouper pas mal de membres du CJV qu'on va pouvoir continuer à mobiliser sur ce projet. Peut-être, Lionel, je vais vous donner un petit peu le mot de la fin sur cette table ronde. Au titre du président, vous êtes président des dirigeants responsables de l'Ouest. Alors on parle beaucoup de précarité, on sait que pour les entreprises également une période particulièrement compliquée. Cette crise touche tout le monde et d'abord nos entreprises françaises. Comment voyez-vous l'avenir? Comment est-ce qu'aujourd'hui les entreprises peuvent continuer à se mobiliser dans ce contexte-là? Quelle est selon vous leur responsabilité dans le contexte actuel?
En tout cas, deux choses. Alors, c'est vrai que c'est difficile, voire très difficile pour certaines entreprises, hein, il ne faut pas le cacher, et que il y a une urgence pour certaines entreprises, tout simplement, d'assurer quelquefois la fin du mois et garantir les emplois. Pour autant, moi ce que je constate, hein, on a fait nos universités d'économie responsable, on a fait en distanciel, la semaine dernière j'étais à Inclusive Tour, c'est que je vois encore beaucoup d'entreprises, de dirigeants d'entreprises, participer, essayer de continuer à se dire, il y a des questions sociales, il y a des questions environnementales. Même si on a des urgences, il ne faut pas qu'on perde le cap par rapport à tout ça. Vous voyez, les UER, donc c'était à fin août, on a fait 5 séquences vidéo, on a eu plus de 1000 personnes qui se sont connectées. Voilà, donc on voit que dans les entreprises, ces questions-là continuent à être regardées de près. Et puis en fait, moi quand je regarde les gens qui sont dans la salle, les 22 qui sont sur le tableau ici, allez, je vais peut-être être un peu désagréable, mais moi ce que je vois, c'est que ce sont des gens qui ne gèrent pas leur entreprise année après année. En général, le point commun, hein, je vois Yves, Pierre-Yves, etc., il y avait Ingrid qui était là, ce sont des gens qui ont des véritables projets d'entreprise, ce sont des stratèges, et qui se disent mais si je veux que mon entreprise réussisse demain, bien qu'on a tous des difficultés au quotidien, encore certains secteurs ont encore plus de difficultés, je pense que la conviction profonde qu'ils ne feront pas un projet d'entreprise viable et de développement et qu'une entreprise qui ira bien dans une société qui va mal. Donc je pense que c'est des gens qui ont cette conviction-là et qui intègrent le fait que dans leur stratégie d'entreprise, il y a aussi travailler sur leurs collaborateurs, quels seront leurs collaborateurs demain, qu'attendent leurs consommateurs. On voit bien que la question aujourd'hui de l'emploi, on voit bien que les Français demandent de la relocalisation, ils veulent que les entreprises contribuent à ça. Hein. Ils sont de plus en plus attentifs aux questions environnementales. Alors évidemment, il y a les questions du quotidien qui font que ce n'est pas aussi simple que ça, et ça monte quand même. Donc je pense que les entreprises qui sauront capter ça et intégrer ces questions-là dans leurs entreprises sont les entreprises qui vont réussir demain. Voilà.
Merci infiniment pour ce message de l'œil. Je crois que comme vous, nous sommes convaincus qu'aucune entreprise ne gagne sur un territoire qui perd et que finalement la dotation d'action territoriale, c'est un investissement d'avenir, c'est un investissement dans les compétences du territoire, dans la paix sociale sur le territoire aussi, parce qu'on sait que quand on a un avenir compliqué, en fait, ça peut générer des tensions. Et qu'aujourd'hui, finalement, en fait, si on s'y associe tous, en fait, on peut éviter cela. Merci infiniment pour vos témoignages. Je suis consciente du fait que c'est un peu frustrant de vous laisser que quelques minutes, mais vous êtes avec nous pendant tout le cocktail, donc vous aurez l'occasion de poursuivre ces échanges donc avec Aïcha et Hélène sur la partie association. Et également, j'en profite pour présenter Davis et ses équipes qui sont au fond, qui portent le projet Résilience, un projet auquel on croit beaucoup. J'en profite également, puisque j'ai le micro, vous avez dans la salle, donc... beaucoup d'entreprises nantaises, mais je voulais aussi souligner un soutien très particulier, celui de la Fondation Total, qui est venue ici aujourd'hui et qui a fait quelque chose que je n'ai pas vu en fait auprès d'autres grandes entreprises françaises, qui est de nous avoir envoyé en fait quelques jours après le début du confinement un message extrêmement fort en disant « Écoutez, on sait que la période est très compliquée pour vous, on sait que vous avez besoin de soutien, si dans cette période on peut faire quelque chose pour vous, faites-nous signe. » Et on savait qu'on avait en face de nous en fait des associations, Résilience, Brio par exemple, qui avait des problèmes de financement, qui avait effectivement des budgets à clôturer avec des bailleurs en fait, qui ne pouvaient pas forcément garantir la pérennité des financements. Et la Fondation Total, depuis Paris, en fait, a accepté de combler ces trous. Et donc vraiment, je voulais les remercier pour leur présence ici à nos côtés également. Merci infiniment, Léa. Vous l'avez compris, cet engagement au service des alliances territoriales, au service de cette lutte contre la pauvreté des jeunes, en fait, nous la portons ici à Nantes, mais nous la portons ailleurs en France, en fait. Notre objectif, tout à l'heure, Denis vous le disait, c'est de pouvoir mettre en place ce projet sur 50 territoires dans les 3 prochaines années et venir ainsi en aide à 100 000 jeunes. Alors 100 000 jeunes, ça peut sembler beaucoup, mais en même temps, c'est assez peu. Je rappelle quelques chiffres aussi fondamentaux. Chaque année, 100 000 jeunes décrochent de l'école, ça veut dire qu'ils sortent de l'école sans formation, sans qualification, sans diplôme. Quand je vous parlais tout à l'heure des chiffres de l'INSEE sur la croissance de la pauvreté, plus de 500 000 personnes ont sombré dans la pauvreté en plus en 2018 par rapport à 2017, et parmi eux, 150 000 jeunes de moins de 18 ans. Et donc aujourd'hui, ces chiffres sont absolument ahurissants. Il est important de se mobiliser, et vraiment l'alliance de tous au service de ce combat est plus que jamais précieuse. Et à ce titre-là, je voulais saluer la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté, une entité hébergée au sein du ministère des Solidarités et de la Santé, donc sous la responsabilité d'Olivier Véran, qui nous accompagne depuis le début en fait, de ce projet de dotation d'action territoriale dans notre stratégie des SMH, et qui nous donne les moyens concrètement en fait, d'embaucher des délégués régionaux qui ensuite en fait, vont porter ce projet dans l'ensemble des régions françaises.